Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a? Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama. C'est une demi-heure pendant laquelle on va parler de cinéma. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, vous allez parler chacun d'un film qui est en salle depuis le 14 juin. Alors toi, Guillaume, tu vas parler du Grand Prix du jury du Festival de Cannes 2022.
Oui, mais qui a mis du temps à nous arriver. Hein. C'est Stars at Noon de Claire Denis.
Et toi, Manu, c'est un petit film de stop motion.
Oui, Marcel le coquillage avec ses chaussures. Et puis je vais tenter de vous donner très envie d'aller le voir.
Et puis, bien décidément, ce sera une émission un peu light ou légère, puisque il n'y aura qu'un troisième film, c'est celui de Bruno Podalides, Waouh. Mais ce film nous donnera l'occasion de jouer un blind test avec la filmographie de Bruno Podalides, qui est un réalisateur que j'apprécie tout particulièrement. C'est pour ça que j'avais été d'ailleurs très heureux de le rencontrer. Alors, c'était il y a quelques années et nous allons pouvoir réentendre une partie de cette interview que le réalisateur français m'avait consacrée. Ainsi débute Cinérama avec un film où l'on retrouve une jeune journaliste américaine bloqué au Nicaragua. C'est donc le Grand Prix au Festival de Cannes 2022. C'est le film de Claire Denis.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Des étoiles à midi, c'est le dépaysement proposé par Claire Denis avec Stars at Noon. Alors au programme du décalage horaire, un pays exotique, une dictature, deux jeunes gens et des péripéties qui vont entraîner une fuite en avant. Eh ben non, hein, c'est pas le programme d'un James Bond, hein, même si on n'est pas loin parfois, ben parce que dans un pays déchiré par des luttes politiques internes, les journalistes ou représentants deviennent rapidement des agents doubles de leur rédaction ou de leur entreprise. Alors quand bien sûr ils ne se cachent pas derrière des jeux de pouvoir qui auraient pu éventuellement intéresser Tom Clancy, ben si la réalisatrice n'avait pas choisi un autre angle pour traiter des actions de son film. Stars at Noon nous catapulte donc au Nicaragua et met en scène Trish, une jeune journaliste américaine, ou du moins le semble-t-il car son affiliation à des réactions reste un peu nébuleux, hein, qui vit la fin de ses privilèges. Après s'être attiré la grâce, grâce à ses grâces, de plusieurs hommes de pouvoir du coin, elle se retrouve désormais bloquée sans passeport ni argent dans un Nicaragua fantomatique qui, au-delà d'être en pleine période électorale, est surtout tenu par une main de fer, par un pouvoir qui n'aime pas trop qu'on s'intéresse à lui. Alors elle a tout fait de rencontrer dans un bar d'hôtel un voyageur anglais, Daniel, dont elle tombe tout de suite sous le charme. Il faut dire qu'il a plus un atout dans sa poche, il est frais dans ce pays, semble bien se débrouiller avec ses propres connexions et avantages à lui, et bien évidemment un jeune homme tout à fait séduisant. Mais alors, qui lui semble être l'homme rêvé pour l'aider à fuir le pays, elle réalise trop tard qu'au contraire, à cause de lui, les choses vont s'accélérer autour d'eux et que ce monde dans lequel elle évoluait sans trop de soucis va devenir rapidement très dangereux, mais cette fois-ci de manière très concrète.
Should we meet again?
Again and again.
Dit Claire Denis dit forcément deux ingrédients qui ont fait les mamelles de son cinéma, l'exotisme et les corps. Les deux sont bien évidemment liés, l'exotisme délivrant une sensualité inconnue des corps, et le pays étranger va se faire découvrir deux corps qui ne se connaissent pas. Ou comment aller au bout du monde pour mieux se retrouver via une découverte de ce qui anime véritablement les êtres sous leurs épidermes. Alors Trish, qui est venu voir combien mesurer l'enfer, alimente sans remords cette espèce d'entre-deux, ni véritable lieu qui fonctionne pour ses habitants, ni véritable terre désolée. Un journaliste, mais qui se prostitue autant pour les avantages, l'argent que pour le frisson de son bon plaisir et du jeu dangereux dans lequel on comprend qu'elle se plaît évoluer. C'est un personnage complexe qui va se révéler dans les bras de Daniel, au point de mettre de côté toutes ses manigances et sa propension naturelle à manipuler les hommes, et cet abandon spirituel comme charnel va enfin lui faire réaliser que pactiser avec le diable a toujours un prix. Daniel, le beau chevalier blanc au costume justement blanc, va voir ce costume se teinter de sueur, un marqueur indélébile du poids des tropiques, jusqu'à changer de couleur suite aux échanges de fluides corporels, mais aussi la boue, l'eau, de pluie, tout ce qui va composer sa fuite en mutation cruelle. Alors Trish le dit elle-même d'ailleurs qu'il est si blanc qu'elle a l'impression de faire l'amour à un nuage. Alors, je vous fais la version tout publique de l'échange, bien évidemment, mais l'étonnante et peu ragoûtante scène de sexe qui s'ensuit va justement aider à le teinter et colorer un peu plus cette fausse figure de sauveur sans aspérité. Je vous laisse découvrir comment. Car, hein, bah, film de Claire Denis oblige, on passe pas mal de temps au lit dans Stars at Noon. Il faut dire que le choix de Margaret Qualley, hein, fille d'Andy McDowell, est particulièrement réussi, car la jeune femme porte tout le film sur ses épaules, de sa sensualité affolante et de son charisme qui imprime durablement les plans. Alors en face d'elle, le plus mystérieux mais aimant magnétique, hein, qui prend de l'ampleur au fur et à mesure que le film se déroule, Joe Alvin, hein, l'excellent Billy Lynn dans Glee, est plus effacé mais complète bien le duo. Au-delà de son histoire cousue de fil blanc, à laquelle même la réalisatrice ne semble pas vraiment croire, hein, au point de négliger pas mal de ressorts du genre, ben, au simple profit de son couple star, et qui accuse quand même bien le poids languissant de ses 2h15, hein, ce qu'on retient en particulier du film, ben, à défaut d'une expérience vraiment mémorable qui ne mérite pas vraiment peut-être un grand prix au Festival de Cannes, hein, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que le film a mis plus d'un an à sortir, ben, c'est son ambiance d'apocalypse feutrée. Parce qu'avec ses quelques militaires ici et là, ses rues vides de gens, hein, ses masques, hein, que l'on met ou qu'on fait glisser sur son menton, ces personnages jamais francs du collier, ben pour peu, hein, le pays en crise et en guerre ressemblerait au décor d'un film catastrophe. Alors les tropiques, qui selon l'héroïne bouffent très vite les gens, semblent avoir été visités par une tempête qui a tout dévasté et laisse tout désolé derrière elle. Ben c'est la force, hein, sourde, hein, de Stars at Noon, qui fait penser par moments, ben, à du Wong Kar-wai, mais sans le style assuré du maître de l'image à double niveau.
Eh bien, merci Guillaume. Alors même s'il aurait pas dû avoir ce grand prix, il l'a quand même eu. Donc c'était au Festival de Cannes 2022 pour Stars at Noon en salle depuis le 14 juin. Maintenant, on suit deux agents immobiliers dans les Yvelines, mais aussi tous ceux qui viennent visiter les biens qui sont à vendre et qui espèrent avoir l'effet waouh. Nous parlons du dernier film de Bruno Podalides.
Nous sommes tous, pour autant que ces mots aient un sens précis,
Cinérama,
parfaitement au point et incapable de nous tromper.
Je pense qu'il faut reconsidérer le prix actuel de la maison.
Vous êtes en train de nous dire que vous êtes nul.
Tu es stagiaire, donc tu n'interviens pas pendant les visites.
Capitaine.
Il est gentil, mais il est pas un peu nunuche.
Quel est le baba d'un bon agent?
Faire de la thune.
Il émet des hypothèses sur la vie, il y croit, je trouve ça sympathique, non?
Oui, c'est vrai.
C'est toujours un plaisir de retrouver un film de Bruno Podalides, et ce waouh ne fait pas exception. Il se base alors sur un scénario des plus simples. On suit deux agents immobiliers à Bougival, donc dans les Yvelines, Catherine, interprétée par Karine Vial, et Horatio, Bruno Podalides lui-même, qui font visiter donc des logements. Les visites vont donner l'occasion au réalisateur de nous donner, eh bien, une sorte de miroir de la société au travers des prétendants à la propriété. Les deux logements sont comme un pile et une face d'une même réalité. D'un côté, on a une vieille demeure bourgeoise avec un terrain piscinable, mais avec un jardin donnant sur le RER, détail qu'on ne donne pas dans l'immédiat, évidemment. Et de l'autre, un appartement neuf avec deux chambres, mais quand même double vasque. Cela ne pose pas de problème quand on est deux à vouloir y vivre, mais cela renvoie à la solitude quand on imagine y vivre seul. C'est ainsi que le film se déploie dans sa forme simple des visites des biens à vendre.
Le client, quand il arrive ici, il doit faire « waouh ».
Waouh !
Waouh !
Waouh !
Wow. Sinon c'est mort. Il faut absolument connaître son produit.
Et là c'est quelle exposition?
Ah bah réponse à tout, Est-Ouest.
Là on est Nord.
Hein?
Chaque vendeur a son style. Catherine, récemment veuve, aime suivre un cheminement et souffre des aléas qui peuvent arriver durant la visite. Et compte tenu de la période qu'elle traverse, elle fait presque office de psy quand parfois elle se permet aussi d'être un peu trop franche, avouant que le saxophone dont joue la possible acheteuse vaut moins que le piano de son compagnon. À vrai dire, elle ne craint plus grand-chose. Horatio est dans une autre veine, en reconversion. Il cherche l'effet waouh, tentant de jouer avec la proximité. Il est accompagné d'un stagiaire qui l'est chargé de former, ce qui donne quelques éléments de drôlerie supplémentaire. Car Waouh est avant tout une comédie, mais qui s'apparente à une comédie intelligente. Comme dans tous les films de Podalides, l'humour tient au burlesque et aux situations. Comme dans Dieu seul me voit, par exemple, son premier long métrage, il nous fait le coup d'un personnage qui n'arrive pas à progresser de la même manière qu'un autre, car il est empêché par l'environnement extérieur. Il y a quelque chose de l'accident qui vient accabler le destin individuel. Mais alors que dans Dieu seul me voit, le propos était très universel, c'était l'indécision, comme pour les deux Alfred, son dernier long métrage, Podalides joue avec les règles de son époque. Dans les deux Alfred, alors c'était par exemple les drones qui circulaient en ville, la Startup Nation et l'homme qui cumulait des dizaines de petits boulots, et bien ici cela passe par des personnages comme ce jeune couple au vélo pliable portant les mêmes casques, le stagiaire qui préfère le skate quand son patron prend un vélo électrique, ou ses deux frères promoteurs qui cachent leur dessein de transformer la maison familiale en 18 logements avec parking. L'humour est de toutes les séquences. Alors il se trouve que Bruno Podalides n'est jamais aussi fort que lorsqu'il joue des rôle de vendeur. C'était le cas dans Liberté Oléron, hein, quand il fourgue une vieille rougne au personnage interprété par son frère, mais aussi dans Banc Public, là où il est chef de rayon dans un magasin de bricolage où il est même le patron, je crois. Alors, si bien que le langage immobilier irradie les dialogues. On parle du triangle de Bougival pour vanter la localisation du bien, même si ça n'existe pas vraiment. Et la maison bourgeoise est un bien d'exception alors qu'il y a vraiment tant de travaux à effectuer. Le film commence sur un terrain très burlesque avec des musiciens venus pour acheter qui vont repartir désunis de cette visite pour ensuite bien voir une femme qui tombe amoureuse de la maison mais qui doit convaincre son mari. Alors lui qui n'a qu'une idée en tête, c'est rénover. Là encore, les dissensions apparaissent dans le couple. Le film ne souffre pas, comme je l'ai lu par ailleurs, de répétitions. Ce sont précisément les répétitions qui font l'intérêt du film, car à chaque séquence, Podalydès sonde davantage ce qui nous lie à la vie. S'il confronte les générations, les aspirations de chacun, il ne les juge pas. Alors, il y a bien sûr un fond mélancolique, une pointe de nostalgie, mais l'ensemble est toujours euphorisant. Le couple formé par Eddy Mitchell et Sabine Azéma, c'est le couple qui vend la maison bourgeoise, illustre cette vision. On pourrait penser qu'ils sont à la fin de leur vie, mais le personnage de Sabine Azéma dit autre chose. Elle dit « On n'a plus d'enfants, on n'a plus cette grande maison, on va enfin s'aimer. » Un nouveau départ. Voilà, l'effet waouh que doivent avoir les visiteurs en visitant un bien est aussi l'effet waouh que l'on peut avoir à suivre ces visites quand elles sont mises en scène par Bruno Podalydès et écrites avec tant de précision et de drôlerie. Ce film que j'ai tant aimé, Waouh, est en salle depuis le 7 juin. Il nous donne l'occasion de jouer un blind test autour de la filmographie de Bruno Podalydès, donc réalisateur français qui est bien le frère de Denis Podalydès, acteur maintenant bien connu. Bruno Podalydès, il a fait une douzaine de films et donc il va falloir trouver 5 de ces films. On écoute tout de suite un extrait.
Elle a rien dit, ta grand-mère ?
Pas que je sache.
Pas que je sache, mais c'est très grave ces questions-là, pas que je sache. Voilà, vous êtes gentil, vous dégagez maintenant.
Mais non, mais on parle pas comme ça aux gens qui sont dans la
je
fiction.
Je parle aux gens dans la fiction comme je veux. Alors maintenant, tu te barres, tu vas aller retrouver ta petite femme là, puisque t'es pas capable de la larguer. Allez, va jouer au petit garçon là avec ta trottinette, tes 3 cheveux qui se battent en duel. Si encore tu l'aimais, mais même ça, t'en es pas capable. Petite bite incinérée, tu termineras dans une urne minuscule.
Est-ce que tu peux être vulgaire?
Mais ça fait du bien des gros mots dans ta petite gueule de bourge là. Ah oui, on peut pas dire manger, faut dire déjeuner.
Mais j'ai jamais dit ça.
Mais
alors.
Si, on peut pas dire bon appétit, c'est vulgaire. Mais vie, bordel, bouffe, baise, mort. Faites un coup, mémé, sors ta bite et nous fais pas chier.
Bon, alors très bien, je prends acte.
Il a pris acte.
C'est trouvé.
Et c'est donc Adieu Berthe ?
Oui, ou L'enterrement de Mémé, film de 2012. On entend là Valérie Lemercier qui donne la réplique à Denis Podalydès, qui est de tous les films de son frère. Et qui joue souvent des rôles de personnages indécis. Là, c'est le cas aussi. Hein. Il n'arrive pas à se séparer de sa femme. Alors que Mémé vient de mourir, Armand Lebrec, pharmacien à Chatou dans les Yvelines, donc Denis Podalydès, doit jongler entre un père atteint d'Alzheimer, une femme qui ne veut plus le quitter et une maîtresse qui devient envahissante, on l'entend. Et puis Berthe, est-ce qu'on l'enterre ou on l'incinère ? 659 000 entrées en France pour ce film. Deuxième extrait, nous cherchons des films de la filmographie de Bruno Podalydès.
Et pour quand la colo ?
La colo ? Ah, la coloscopie, dans une semaine. C'est ma 5e. C'est très banal maintenant.
Ah, de toute façon, arrivé à 50 ans, pour tout le monde, c'est direct la coloscopie.
C'est encore de Marielle ?
Non, là, c'est de Duras.
Duras ? Marguerite ? Ah bon ?
Vous êtes toujours aussi crédule, vous. On a beau avoir écrit des chefs-d'œuvre, construit des ponts, récolté des millions de tonnes de blé, enseigné à des milliers d'enfants. Arrivé à 50 ans, c'est la coloscopie.
Eh oui. Et puis, on reprend sa belle voiture, son bus, son sac à course, et on repart vers la soixantaine.
Et arrivé jusque-là, dans le meilleur des cas, nouvelle coloscopie.
Eh oui.
Alors, on entendait Claude Rich, et l'autre, j'ai oublié.
Et c'est donc Banc Public.
Oui. 2009 pour ce film. Le film commence avec un immeuble sur lequel il y a une banderole sur laquelle est écrit « Homme seul », ce qui ne va pas manquer d'attiser les curiosités. Et puis le film dépeint une galerie de personnages, un vivant ou travaillant à Versailles. Donc il y a l'immeuble de bureau avec ses employés, le square du quartier avec ses habitués. Et puis une grosse partie du film, c'est le magasin de bricolage avec ses vendeurs et ses clients. C'est un des films qui a le moins bien marché, 247 000 entrées en France pour ce film Banc Public. Troisième extrait, blind test autour donc de la filmographie de Bruno Podalydès.
Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure, juste avant que j'y aille, hein, les derniers mots que tu as dit?
Je parlais des Américains.
Ah non, tu m'as demandé si j'étais jaloux. Ah, c'est ça. Voilà. C'est le mot qui a fait levier. J'étais trop sensible.
Ah bon?
Mmh. Ça n'a rien à voir avec la jalousie, hein. Mais tu supposais que je puisse l'être. Donc, qu'il y ait quelque chose entre nous. En fait, je résiste depuis que tu as commencé à parler ouvertement de ce dîner.
Parce que dès que tu te sens dans une situation affective trop riche, ça enclenche le processus?
C'est ça, voilà. Exactement. Dès que s'ouvre l'embryon de la possibilité qu'il se passe quelque chose de comment dire,
de grave sentimentalement.
C'est ça, de grave sentimentalement, eh ben je cours vomir.
Alors, c'est trouvé?
Et c'est Dieu seul me voit.
Avec un gros indice, c'était Jeanne Balibar, effectivement, qui donne la réplique toujours à Denis Podalydès. Alors, c'est Dieu seul me voit, film de 98, c'est le premier long métrage de Bruno Podalydès. Albert doute de son pouvoir de séduction, il doute aussi de ses propres sentiments, comme de la direction à prendre, de l'attitude à adopter, du discours à tenir. Donc, Albert doute de tout et hésite en permanence. 393 000 entrées pour ce film. Il existe une version interminable de 6 fois 1 heure. Et il en sera question bien juste après ce blind test donc dans l'interview que j'avais pu avoir avec Bruno Podalydès. Allez, quatrième extrait de ce blind test.
Plonge le sous-marin dans le ventre de la mer. Coule à bord le marin, dessous les vagues, dessous le vent.
C'est quoi cette niaiserie là?
C'est une chanson que j'ai entendue ce matin à la radio.
Oui, bah vous écoutez des drôles de radio, hein, vous. L'autre conne là, putain, avec ses je sais pas, la première adjointe de mes fesses. J'en peux plus, moi, des drones. Encore un énième salon du drone là, non mais je rêve.
Non, pas tout à fait, un tournoi de drones.
Oui, mais c'est pareil, c'est complètement nul comme idée. Tu t'y connais en drone, toi?
On se vous voit ou on se tutoie?
Ben, on se vous voit. On se vous voit, mais quand je suis fatigué, je tutoie.
Ah.
Trouvé.
Et c'est les deux Alfred.
Oui, précédent film, film de 2021. Alexandre Chômeur déclassé à 2 mois pour prouver à sa femme qu'il peut s'occuper de ses 2 jeunes enfants et être autonome financièrement. Il se fait embaucher dans une société qui a pour dogme pas d'enfants. Donc il va rencontrer Arsim Boldo, un homme entrepreneur de lui-même, interprété par Bruno Podalydès. 390 000 entrées en France pour ce film. Allez, dernier extrait de ce blind test.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations?
On va regarder ça.
Vous savez, les moteurs, moi...
Quoi, les moteurs? C'est un moteur tout neuf.
Oui, j'ai entendu.
Moi, je m'en suis servi qu'une seule fois.
Qu'est-ce que vous avez
fait
au juste?
Je l'ai mis en air, il me...
Qu'est-ce que vous avez fait au juste?
Ben, c'est en redémarrant, j'ai tiré sur le...
Non, mais vous avez pompé avant?
Pomper, oui.
Là, la poire sur la nourrice, là, pif, 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 là, il faut pomper, là.
Ben, c'est bien ce que j'ai fait, j'ai tiré sur le...
Là, excusez-moi. Bien. Vous avez tiré là sur le...
Oui, j'ai tiré sur le...
Vous faites les pétons, hein?
Quoi, les pétons?
Oui, les pétons. Là, il y a 2 têtes de pétons, là. Là.
Oui.
Hein? Là, il y a 2 têtes de pétons qui... Alors, vous voyez, ça peut riper sur le croc, hein?
Alors, on a laissé cette séquence dans la durée, c'est trouvé?
Bah, c'est Liberté Oléron, hein,
oui.
Avec cette fameuse séquence, bah, avec l'histoire de pétons.
Des pétons. Et bien avant, il y a l'histoire de la glaviole. Alors,
ah oui.
Alors la glaviole, donc c'est quelque chose qu'on trouve dans la navigation. Et ça apparaît dans ce premier long métrage de Liberté Oléron. Ça apparaît dans plusieurs longs métrages de Bruno Podalydès, et y compris donc dans le dernier. Il y a un moment où il tombe sur une glaviole. Il y a toujours un moment où il y a quelqu'un qui bute dans une glaviole. Voilà. Bon, après, voilà. Non seulement Bruno Podalydès fait des running gags, enfin, il est très friand des running gags à l'intérieur de ses films, mais il est aussi très friand des running gags qui reviennent dans l'ensemble de ses films. Donc, Liberté Oléron, film de 2001. À Oléron, où il va chaque été, Jacques s'est mis en tête d'acheter un voilier, sauf qu'il n'a jamais navigué. Il doit miser sur un dériveur d'occasion. Et l'objectif est de rallier l'île d'Aix à 5 km, mais la traversée n'aura rien de facile, surtout sur le retour. 368 000 entrées en France pour ce film donc, de Bruno Podalydès. Nous avons pu rencontrer, c'était un peu avant, c'était en 2009 je crois, hein, Bruno Podalydès. On avait longuement parlé de la version interminable de Dieu seul me voit, parce que c'est un film que j'aimais beaucoup. Et donc il faut savoir que c'est donc le premier long métrage de Bruno Podalydès, mais c'est aussi un film qui existe en 6 fois 50 minutes ou même 6 fois 1 heure. On écoute maintenant donc le réalisateur nous en parler.
Bonjour. Bah oui, c'est le film, et le film est bien.
Eh bien, oui, je m'appelle Bruno Podalides et je suis réalisateur.
Le film est bien.
Et scénariste.
J'aurais un petit mot à dire sur ce film, mais pas maintenant.
Cette année, vous présentez la version interminable de Versailles Chantier. Comment est née cette version interminable et pourquoi distinguer finalement, enfin faire un long métrage et une version qui dure 6 fois 50 minutes ?
Au départ, j'ai écrit un scénario pour un très long film de plus de 6 heures. En espérant faire un feuilleton pour le cinéma, mais à l'époque, c'est mon premier film, c'était pas possible. Donc j'ai décidé de faire une version long métrage de 2 heures et puis remettre à plus tard la version feuilleton qui existe maintenant et je suis bien content, qui est 6 fois 1 heure, qui est pour moi là le vrai projet original.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Là, j'ai eu un grand plaisir pour cette version à résumer les épisodes précédents, par exemple en images, parce que je montais les plans autrement, je montais pas les mêmes plans souvent, même pas les mêmes prises. Et je racontais le télescopage de certaines séquences qui, normalement, en les mettant côte à côte, ça crée un nouveau montage. Et à la fin du film, il se retrouve à une manif avec les 3 filles qui arrivent. Et là, de mettre les 3 filles qui, l'une après l'autre, lui demandent « Mais tu vas à la manif ?» Chacune, il n'y a que le résumé qui me permettait de le faire. Dans le film, c'est comme assez espacé. Voilà, ces rapprochements sont très amusants et ça, c'est propre à la forme feuilleton.
Bon, bah, t'as qu'à te garer là, mon vieux, on s'en fout, non ?
Bah, oui, mais t'es marrant, toi.
Oh là 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 là.
Et du coup, tu l'as eu où ton permis de conduire ?
Mais monsieur, vous voyez bien que.
Je vous permets pas de nous tutoyer, hein. Ou alors on se tutoie, on descend et on se finit à coup de boule. Choisis.
Choisissez, hein.
Non, mais enfin.
C'est l'histoire d'Albert, donc, qui est joué par votre frère,
oui.
Qui a du mal à prendre tout un tas de décisions. C'est pas forcément un grand séducteur, mais effectivement, il est aux prises avec 3 femmes. Alors, comment vous est venue cette idée de scénario ?
Je voulais rentrer dans le cerveau de quelqu'un, à l'endroit le plus intime qu'on avoue le moins, qui est celui, souvent, de l'irrésolution. Ne pas arriver à s'engager, aussi bien pour un choix simple de la vie de tous les jours, au restaurant, un menu, ou dans les choix politiques, ou vis-à-vis des personnes. Et parce que ce moment-là de l'hésitation, ou des résolutions plutôt, je trouve que c'est en fait très important dans notre vie intellectuelle, entre guillemets. Le mot est un peu fort, mais je trouve que c'est un moment où la démocratie bat son plein entre ses propres idées, qui chacune lève son petit doigt, il va falloir en choisir une. Et je trouve très important de ne pas avoir honte de ce moment-là. Alors je trouve souvent dans la vie de tous les jours, on le tait. On fait semblant d'avoir toujours décidé, y compris de sa vie, alors qu'on ne fait qu'en permanence composer aussi avec ce qui nous arrive. Et donc je voulais, voilà, c'est une idée qui était très anti-cinématographique, parce que ça débouche très vite sur l'inaction. Et en même temps, moi j'ai constaté qu'on est encore plus actif quand on a ce type d'empêchement, parce que du coup on est obligé de tester toutes les idées, d'envisager tous les possibles, et ça c'est épuisant, pour n'importe quoi. Un gars au restaurant qui décide vite qu'il a envie d'une blanquette, il est vite libre pour parler avec ses convives. L'autre gars qui hésite entre blanquette et rôti de veau, il s'imaginer en train de manger du rôti de veau, et il va s'imaginer en train de manger de la blanquette. c'est douloureux. Et en même temps, il fait l'expérience du coup mentale de manger du rôti de veau. Et il découvre plus de choses aussi. Je trouve cette curiosité, plutôt que le gars qui va systématiquement manger sa blanquette parce qu'il sait que c'est bon, il est plus curieux aussi. Donc je salue souvent ces moments-là. Mais c'est dur à raconter, quoi.
Cela dit, il y a aussi les prépéothèques ou vinettes qui ne doivent pas être dégueu.
Dans les cailles, il n'y a jamais grand-chose.
Et vous avez tout de suite pensé à votre frère pour le personnage d'Albert, qui avait déjà joué dans le premier... Enfin, c'était un court-métrage, 45 minutes. Le premier morceau de la trilogie... Versailles, comment on dit ? Versailles Rive Gauche. Oui. Voilà. Vous aviez tout de suite pensé à votre frère ?
Pour Dieu seul me voit, oui, c'était le seul acteur dont je disposais au départ. Et puis après, il me comprenait très bien. Et donc, on a écrit les dialogues ensemble aussi. On a joué toutes les scènes du film intégralement. Et ce qui est bien, c'est qu'il était déjà acteur de théâtre. Parce que dans Dieu seul me voit, Versailles Chantilly, il y a beaucoup, beaucoup de très longs plans. Et il les a tenus. À la fin, il fait 3 longs monologues au téléphone.
Mais l'idée de m'engager me fait vomir, tu comprends ? Ça me fait dégueuler. Hein ? Puis après tout, on n'est pas obligé. Pourquoi toujours trancher, toujours couper ? On peut dénouer, on peut démêler. On n'est jamais fier de négocier, c'est presque la honte. Ben, je trouve que c'est dommage, tu vois. Hein ? Voilà. Alors, ben tiens, c'est comme Cuba, tu vois. Alors, on peut dire aussi que les Américains ont eu intérêt à ce que Cuba devienne communiste. Et puis Castro, on peut dire aussi qu'il a intérêt à maintenir l'embargo pour rester au pouvoir, on peut dire ça. Alors d'accord, les Américains font changer de sucre à tout le monde, saccharose, machin, tout ça, mais moi... Je sais plus quoi penser, tu vois. Hein.
C'était Bruno Poidalides, rencontré il y a une paire d'années quand même, et qui nous parlait donc de « Dieu seul me voit ». Marcel Le Coquillage veut retrouver sa famille et tout le web est au courant. Allez, nous parlons maintenant d'un film d'animation.
Dites-le.
Cinérama.
C'est très clair.
Je fais un petit documentaire que je vais publier en ligne.
C'est comme un film, sauf qu'on n'a pas de réplique et qu'on sait pas vraiment ce que c'est quand on est en train de le faire.
Marcel est un adorable coquillage anthropomorphe hein, de quelques centimètres, affublé d'un œil, d'une bouche et de chaussures. Alors il mène une existence douce et tranquille auprès de sa grand-mère Connie, dans une villa désertée par ses occupants depuis une brusque séparation. Mais le sentiment de solitude le pèse un peu, hein, comme un manque de ne pas être auprès des siens. Hein. Ne riez pas, mais vous ne savez pas ce que c'est que la vie intérieure d'un coquillage. Hein. Il vivait à l'époque en harmonie avec une communauté de coquillages. Un jour, un réalisateur de documentaire ayant loué le logement Airbnb, hein, depuis que les anciens propriétaires sont partis, hein, découvre Marcel et sa grand-mère. Il décide de les mettre en scène dans un court-métrage alors diffusé sur YouTube. Marcel devient une star du net, un phénomène culturel suivi par des millions de fans. Cette reconnaissance relance ses espoirs de retrouver sa famille perdue depuis 2 ans, mais ravive aussi des angoisses existentielles, faites certes de petits riens, mais qui rappellent parfois l'univers triste et décalé d'un Wes Anderson. Alors après, hein, beau Is Afraid, voici Marcel Is Afraid. Enfin, toute proportion gardée, hein, car il est bien connu que les coquillages consomment rarement des psychotropes et ne présentent pas les mêmes troubles psychologiques. Le seul point commun que cet ovni entretient avec celui de Ari Aster tient à la production, celle de A24, hein, la société de production et de distribution indépendante, qui continue à creuser un sillon ambitieux. Alors au départ, il s'agit d'un court-métrage hein, transformé en un film d'animation hein, de 90 minutes par le même réalisateur, Dean Fletcher Camp. Ce passage au long, fruit d'une maturation alors sur plus d'une décennie, ne s'ouvre pas d'un des défauts les plus récurrents, hein, soit une réécriture artificielle inutilement gonflée, ne parvenant pas à tenir sur la durée un concept génial. Alors malgré quelques effets répétitifs, Marcel Le Coquillage impressionne par son dispositif, enchantement visuel et narratif, dont la virtuosité n'est jamais exhibée.
Marcel Le Coquillage nous rappelle combien il est important d'être entouré des siens. Marcel, ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu votre famille ?
Je ne pourrais pas vous dire, mais je sens ce vide dans mon cœur qui devient chaque jour de plus en plus grand.
Présente dès l'origine du projet, la comédienne Jenny Slate prête toujours sa voix charmante et volubile à Marcel. Son timbre si singulier, alors qu'on n'entend pas dans la bande-annonce en français, opère un effet de séduction immédiat qui donne envie d'adopter cette petite chose dotée d'un œil comme un cyclope en miniature. La logorée verbale de Marcel, qui débite à la mitraillette toutes ses pensées et réflexions, sans hiérarchie, évoque parfois, sur un mode plus fantaisiste mais tout aussi angoissé, le meilleur du cinéma de Woody Allen. Alors par ailleurs, pour apprécier pleinement la musicalité enivrante de l'œuvre, la VO est indispensable. Mais bon, comme le film peut s'adresser aussi aux enfants, on va dire que les deux sont importants. La tonalité alliée à la rythmique poétique du phrasé importe tout autant que le sens des mots, construit sous la forme ludique d'un mockumentary, soit une parodie de documentaire. Marcel Le Coquillage carbure au régime d'images hétéroclites, passant d'une sorte de found footage trafiqué à des moments contemplatifs magnifiés par des plans sidérants réinventant l'espace domestique. Dans cette tranche de vie alors fantaisiste et absurde, les auteurs décrivent le quotidien de Marcel, qui est fait de petits riens. Cet adorable petit caillou doit surmonter un certain nombre d'obstacles afin de survivre. Il déploie des trésors d'invention pour organiser le plus efficacement possible son espace vital. Alors le cinéaste dépasse donc l'exercice de style brillant et on va dire mignon en déployant une atmosphère sous-jacente mélancolique avec l'ombre permanente de la mort quand elle ne frappe pas de plein fouet ses proches. Le film d'animation donc en stop motion d'une beauté plastique renversante créant l'illusion par le dispositif d'un réel palpable aborde aussi intelligemment la question de l'abandon et de la perte. Les réflexions de Marcel sont touchantes, pertinentes et drôles. Il est interrompu de temps en temps par les questions du réalisateur et les interventions apaisées de sa grand-mère à qui Isabella Rossellini prête sa voix. Alors une très grande réussite qui plaira aux grands enfants que nous sommes, mais pour les plus petits, alors c'est une autre histoire, mais il n'est pas exclu que Marcel parvienne à conquérir le cœur de tous les spectateurs, tout âge confondu.
Marcel, Le Coquillage est en salle depuis le 14 juin.
Alors ?
C'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi ?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai.
Ça se termine toujours comme ça.
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
Alors, ça sent presque la fin, mais on se retrouve quand même la semaine prochaine avec un film.
Oui, moi je parlerai du nouveau film de Koji Fukuda, Love Life.
Et puis toi, tu auras deux films, Guillaume.
Oui, ils parlent tous les deux allemand, mais ils utilisent leur corps d'une toute autre manière. Il y a Il Bohemo, le compositeur du même nom, enfin du même surnom, et Sisu.
Et moi, je vous parlerai de La Sorcière et le Martien et les filles d'Olfa. À la semaine prochaine.